Nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Bonsoir, Rav Lemel.
Bonsoir.
Rav Lemel, comment allez-vous ?
Baruch Hashem, je suis bien.
Excusez-moi, mais je vois votre visage. C'est pas l'information que j'ai. C'est pas parce que ça fait longtemps que je fais ce métier, mais c'est pas l'information que j'ai. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bon, écoute. Ah non, ce que j'ai au visage, c'est la suite. Quoi. C'est-à-dire, bon, j'ai eu un bel hématome au niveau du crâne, mais pas dans l'intérieur. Et donc, voilà, ça, le médecin m'a dit tout de suite, entre demain et après-demain, ben, ça va devenir bleu, rouge, vert, jaune, ça va gonfler. Puis après, au fur et à mesure, ça va se résorber. Bon, Hachem, là, il n'a pas été touché. Et c'est extraordinaire, ça fait partie du grand classique. Quoi.
Mais je crois qu'il y a. Alors, parce que donc, vous avez la moitié du visage maintenant, quasiment, qui est un énorme hématome rouge.
Oui.
Et c'est tellement incroyable, mais c'est surtout tellement contemporain. Les réseaux sociaux se sont tellement enflammés en disant que le rabbin s'était maquillé le visage, que France 24 vous téléphone pour vous demander si c'est vrai. Quand même.
Écoutez.
Quelle époque.
No comment. On passe à autre chose parce que c'est. On va dire que c'est pathétique.
Incroyable. Et bien sûr, vous donnez les certificats médicaux, et, enfin, incroyable.
Ce
que j'aurais à savoir, alors. Par contre, Rav, c'est si vous avez été surpris, comme moi d'ailleurs, moi je le suis un peu quand même, de l'absence totale de réaction sur votre première agression à Deauville, et l'ampleur soudaine prise, c'est monté jusqu'au Premier ministre qui a donné son avis, sur la deuxième agression. Alors, moi, je pense quand même que l'émotion, elle vient surtout du fait qu'effectivement, un rabbin, qui est connu pour être un rabbin très pacifique, un professeur, un enseignant, deux fois en 10 jours, je pense que c'est ça qui a marqué les esprits. Mais vous, comment vous le vivez ? Vous avez été surpris que tout d'un coup, c'est devenu comme ça un événement fou, quoi.
Alors, écoutez, bon, la première fois, très sincèrement, moi, j'ai fait d'abord, parce qu'il y a des domaines dans lequel quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne fait pas, et on demande à ceux qui connaissent. Donc j'ai demandé aux personnes qui s'occupent, et je les remercie du fond du cœur, de la protection de la communauté, ce que je devais faire. Ils m'ont dit, évidemment, que je devais porter plainte. Suite à ça, évidemment, les radios juives m'ont demandé, j'en ai parlé. Il y a eu une demande de télévision, d'une télévision qui est... Donc, très sincèrement, je me suis dit, bon, c'est fait, on passe à autre chose. Pour moi, l'idée, c'était, il s'est passé ça, il faut en avertir les autorités pour protéger surtout les autres membres de la communauté. Et ce qui s'est passé la seconde fois, et je vais raconter la petite histoire, c'est que bon, ça s'est passé, c'est vrai que c'était très violent. Je vais pas dire le contraire. Et je dis ça va, mais c'est vrai que c'était quand même plutôt violent. Et quand, grâce à Dieu, j'ai terminé de faire tout ce que je devais faire, quelqu'un m'a dit, bon, je vous raccompagne à la maison. Et j'ai dit, oui, mais je vais passer... dans ce lieu, surtout pour dire merci aux personnes qui sont intervenues, donc entre autres un des serveurs ou le patron du café. Je suis arrivé là-bas, je vois quelqu'un de France Inter qui est là-bas et qui attend. Je dis, bon, s'il me demande, je dis, c'est honteux de lui dire non. Il y a quand même une notion de Chilul Hashem. Je dis, bon, ça va être juste la radio, je vais dire, voilà, je vais raconter ce qui s'est passé. Et très sincèrement, c'est vrai que j'ai la chance d'enseigner depuis des années, mais je suis pas trop habitué aux grands médias nationaux et à ce genre de choses. Et je savais pas au fond que 10 minutes après, ils étaient tous là. Et donc, à ce moment-là, bon, faut croire que ni qu'on cite mon nom ni quoi que ce soit. Et la personne m'a souri, m'a dit, écoutez, comme on dit un peu vulgairement, laissez tomber, ça y est, c'est partout. C'est sur tous les réseaux. Des personnes de la communauté qui me connaissent, qui étaient là-bas, m'ont vu. Donc, il m'a dit, votre nom tourne, la vidéo tourne. Dans ce cas-là, je me suis dit, OK, alors puisque maintenant c'est là, eh bien, bon, il va falloir qu'on réponde et que j'essaye d'utiliser le cadeau qu'Hachem m'a fait de pouvoir parler normalement pour expliquer un petit peu ce qui se passe et surtout quelle est la vision Torah des choses, parce que je pense que c'est ça qui est important. Et à partir de là, pourquoi c'est parti tellement haut, etc. Les appels de ministres, de trucs, etc. Bon, je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Puis voilà.
Donc, vous êtes en train de parler avec une personne, un membre de la communauté qui vous a donné rendez-vous, en fait. C'est pour ça que vous êtes là. Et tout d'un coup, vous recevez un choc violent sur la tête. Vous vous êtes précipité par terre, c'est-à-dire le choc est tellement violent que
vous vous retrouvez par terre.
Et là, vous avez raconté que quand vous voyez le personnel du café courir après l'agresseur pour le rattraper, c'est-à-dire donc pour vous protéger ou pour retrouver oui. votre agresseur, vous avez pensé à l'image des paysans qui s'étaient battus pour protéger votre père pendant la Shoah. Vous pouvez nous dire de quoi
Alors, de quoi c'est vrai que vous savez que du côté de mon père comme de ma mère, ils ont passé des années sombres. Ma tante Zichrona Livracha, qui est partie de ce monde, d'ailleurs, il y a un peu plus d'un an, à l'âge de 100 ans, elle était dans la résistance armée, hier, sur le plateau du Vercors. Mon père a été raflé, a réussi à s'échapper de nombreuses fois. Et ma mère, de son côté, eh bien, ils étaient cachés dans un tout, tout petit village du Massif central, dans lequel, eh bien, des paysans, et je crois même que je rappelle leur nom, la famille Lebrun, il me semble, mais tout simplement, quand ils cherchaient mon grand-père, etc., le cacher. Et puis voilà, et des gens du village qui ont dit, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient juifs, parce que ma maman, vous savez, racontez une anecdote, elle a 7 ou 8 ans à ce moment-là, et elle va à l'école le samedi, parce qu'il faut y aller, mais elle veut pas écrire. Et la maîtresse dit, ma mère, ma Janine, il faut écrire, et ma mère fond en larmes. Et donc, ils ont compris, et ils ont dit, on ne dira ça à personne.
Waouh.
Voilà.
Elle a 8 ans, votre maman, à ce moment-là.
Elle a 8 ans.
Et on est, sous occupation, et elle est nazie.
On est en occupation, on est en France, et on est avec des gens qui ont su. Et je vous dire, et pour ça, je vais vous dire, c'est-à-dire, moi j'ai tout de suite pensé à ça. Cette notion, je dis, waouh, c'est un juif, parce que clairement, je suis identifiable. Mmh. Et quelque part, il y en a certains qui prennent leur portable et qui filment. Et il y en a d'autres qui, je crois, enfin, j'ai plus vu exactement, mais je pense qu'il a lâché son plateau. Il y a aussi une des personnes du marché, voilà, qui, ben, leur premier réflexe, on lui court derrière et on le chope, alors qu'ils savent pas ce qui peut se passer, quoi. Et bravo.
Ouais.
Et pour moi, c'était vraiment un message que je voulais vraiment partager parce que c'est important aussi d'avoir ça en tête.
Mais c'est tellement important, Rav Lemel. On est en train de réfléchir là ce soir à l'antenne. On y pense tous dans nos familles. On va en reparler pendant encore des jours. On est tellement inquiets. Moi, je vois ce voyage qui est une simagrée de Rima Hassan et qui réunit des milliers de personnes, place de la République. C'est incroyable. C'est pas, une expérience journaliste normale ne peut pas imaginer que ce voyage. Vous savez, les agents de sécurité ont confié au journaliste Raël Ayom que toute l'aide humanitaire qui a été amenée par Greta Thunberg et Rima Hassan tient dans le coffre d'une voiture d'un particulier. Toute leur aide. Tout leur bateau. On prend.
C'est peut-être des lingots d'or.
Vous vous rendez compte? Ça rentre tout dans le coffre d'une voiture, ils ont dit. Et regardez l'ampleur que ça a pris.
Dans ce genre de choses, c'est no comment. No comment. Pourquoi no comment? Parce que les faits se commentent d'eux-mêmes. Et moi, ce qui m'inquiète, et c'est surtout ça, c'est que qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau sociétal? C'est-à-dire au-delà de la problématique très réelle de l'antisémitisme. Clairement, et je ne suis pas naïf, mais il y a quelque chose qui, au niveau de la société, pose problème, et surtout cette incapacité. Alors, vous savez, moi, ça m'a fait sourire quand quelqu'un m'a appelé pour me dire « mais certains disent que vous êtes maquillé ». Je dis bah, « bien sûr, j'ai que ça à faire ». Donc, en deux mots, au lieu d'avoir la lecture premier degré, ah, il a un œil au bord noir, non, là, on ouvre une autre lecture parce qu'elle nous intéresse. Mais par contre, quand on vous présente certaines choses, que la lecture m'intéresse, là j'ai une monolecture, j'en ai pas une deuxième. Et c'est là où en effet on a un vrai vrai problème au niveau purement pédagogique, c'est-à-dire aujourd'hui on est dans un monde dans lequel on va pouvoir amener les gens là où on veut. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film The Waves, la vague, lequel un professeur d'université américaine s'est fait appréhender, enfin certains élus disent mais non, le nazisme c'était pas possible, on n'y aurait jamais été nous. Il met en place tout un système pour leur montrer qu'en vérité, il peut les amener là où il veut. La scène finale du film, c'est le moment où il lui dit « Je vais vous montrer votre chef ». Et on voit « Il marche au mauvais zéro, arrivé Hitler ». Et là, il y a un vrai, vrai, vrai problème de réapprendre aux gens à se poser des questions, à s'interroger et à se dire « Mais au fond, où est-ce qu'on veut nous amener? Quel est le but? Est-ce que véritablement, le fameux vu à la télé, ça correspond à une réalité absolue? Est-ce qu'on nous montre pas juste des fragments d'images ?» Qu'est-ce qui se joue derrière? Et cette absence de réflexion, cette absence d'interrogation et cette forme de regard mono-hypothèse, moi, m'inquiète beaucoup, beaucoup au niveau sociétal, au-delà de la problématique très particulière, et j'insiste, de l'antisémitisme, qui reste quand même une problématique, qu'on ne veuille ou pas, particulière, parce que, à un moment, cette hyper-focalisation, elle interroge quand même.
Alors justement, et ce sera probablement ma dernière question, est-ce que, quelle morale, si on peut, plus ça, qu'est-ce que vous gardez de cette agression, donc deux fois de suite, de manière totalement imprévisible, une fois vous marchez dans la rue, on vous empêche de passer, vous passez quand même sans, je sais pas, vous avancez, on vous met des coups de poing, et après une deuxième fois, tout d'un coup, ça au milieu de nulle part, vous recevez un coup de chaise sur la tête alors que vous êtes en train de discuter avec une personne âgée. Vous gardez ça en disant voilà ce qui se passe aujourd'hui en France 2025, ou vous gardez tout l'élan de solidarité jusqu'au gouvernement, jusqu'au serveur du bar, jusqu'aux voisins, jusqu'aux commentaires sur les réseaux sociaux qui sont solidaires. Heureusement, il reste quand même de l'humanité, tout ça.
Bien sûr. Alors, je garde les deux. Quand je dis je garde les deux, c'est-à-dire je ne suis pas naïf. Je ne veux pas être naïf et ma naïveté disparaît de plus en plus, même si elle n'était pas très présente, à travers ce qui est en train de se passer, qui m'interroge beaucoup, beaucoup et m'inquiète. Un, c'est vrai, à travers des problématiques ultra concrètes d'antisémitisme, et on ne va pas se la raconter, elles existent. Au niveau plus global de ce qui est en train de se jouer au niveau de la société, parce que qu'on le veuille ou pas, cette réflexion, nous devons l'avoir. De l'autre côté, ce qui m'a nourri énormément, et ça, je vais le dire, c'est toute cette solidarité, et comme je l'ai dit et je le répète encore et encore, j'ai envie de la partager, mais pleinement, totalement, avec toutes les personnes qui n'ont pas eu, en tout cas au niveau de la quantité, cette solidarité, cette présence. Il se trouve que j'enseigne, il se trouve que certaines personnes me connaissent parce que j'enseigne depuis longtemps, donc j'ai eu cet afflux. Et je pense à ces gens qui sont dans des banlieues, qui ont été eux aussi agressés, ennuyés, et qui quelque part n'ont peut-être pas reçu tout ça. J'ai envie de leur dire, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est à vous qu'on le dit, c'est à vous. On est ensemble, on est ensemble. Alors, je suis un peu plus visible maintenant, mais pour moi, c'est pas à moi que les gens parlent. Alors bien sûr, il y a les relations à tutti personae, mais c'est à tout le monde. Et même si ça peut déranger, je pense que ça s'appelle à toutes les personnes qui ne veulent pas être des victimes, nulle part, qui ne sont pas intéressées, et qui quelque part se retrouvent l'être, et qui sont dans une souffrance. Vous savez, l'Israël, on n'est pas dans la hiérarchie au niveau de la souffrance. Et c'est ça où il faudrait véritablement réfléchir. Et c'est vrai que ça m'a énormément nourri, énormément. Et je trouve ça incroyablement beau, puissant. Et je dis, et je profite encore de votre antenne, parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde, et je vais essayer, Bezrat Hashem, si je peux, parce que c'est pas quelque chose que les gens sont obligés de faire. Et ils le font quand même. Et au fond, chaque fois, ça rajoute peut-être des gouttes de lumière.
Mais on est très heureux de conclure notre conversation avec vous, Rav Lemel, sur ces mots. On vous souhaite bon rétablissement.
Amen, amen.
Et amen que la solidarité, comme vous avez dit de manière très belle sur notre antenne, je veux rajouter de la lumière, je ne veux pas rajouter de l'obscurité, l'obscurité. Là où il y a de l'obscurité, nos maîtres disent « mets de la lumière ». Et c'est ce que vous avez fait. Y compris ce soir. Je vous remercie pour ces quelques mots sur Radio Shalom, Rav Lemel. Bonsoir à vous.
Merci à vous.